Voilà, on est dans les proverbes et on cherche à apprendre de la sagesse de Dieu dans les proverbes. Et c'est ce que l'on souhaite encore faire ce matin. Imaginez que si en passant devant notre merveilleuse librairie de l'église, on trouvait un livre qui s'intitulerait L'homme ou la femme que Dieu utilisa. À qui vous penseriez immédiatement? Certainement, nous penserions qu'il s'agit d'une biographie d'une missionnaire extraordinaire ou d'un pasteur ou d'un serviteur de Dieu qui excella dans un domaine particulier. La Bible nous offre de tels récits d'hommes et de femmes comme Joseph, Esther, Daniel, Néhémie. Mais ce ne sont pas des prophètes. Ce ne sont pas des sacrificateurs, des anciens, ce ne sont pas des pasteurs ou des missionnaires, ce ne sont pas des enseignants de la Bible, mais ce sont des croyants parvenus par la providence de Dieu à des postes de hauts fonctionnaires et que Dieu a puissamment utilisés dans son œuvre. Ils ont tous fait confiance à Dieu dans leur travail. Ils ont tous eu un jour à choisir entre servir leurs intérêts et servir les autres. Ils ont tous réalisé que Dieu était avec eux dans leur activité professionnelle. Ils n'ont pas considéré leur travail comme un gagne-pain seulement, mais comme un moyen de glorifier Dieu et d'aimer leur prochain. Le travail occupe 8 à 10 heures de nos 8 heures. Les 8 ou 10 heures de nos meilleures heures de la journée et 40 ou 45 années, les meilleures de nos vies. Est-ce que vous pouvez penser un seul instant que Dieu n'a pas d'intérêt pour notre vie professionnelle? Si Dieu n'a pas d'intérêt pour notre vie professionnelle et qu'il n'a d'intérêt que pour le dimanche matin de 10 à 12, alors Dieu n'a pas grand-chose à faire dans notre vie, en fait. Par contre, si Dieu est vraiment préoccupé par notre vie de travail, au travail, alors, et s'il a vraiment quelque chose à dire, alors ce que l'on va voir aujourd'hui va avoir un impact sur vos 8 ou 10 meilleures heures de la journée dès lundi, ou les 40 ou 45 années de votre vie, et peut-être davantage encore. Le livre des Proverbes dit au chapitre 12 et au verset 27 « Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. » Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Dieu vous a appelé à travailler. Votre activité professionnelle, c'est une chose très importante à ses yeux. On va voir que le travail est bon. On verra que le travail est déchu, et on verra enfin que le travail est racheté par l'Évangile. Alors regardons d'abord, le travail est bon. Le travail occupe les premières pages de la Bible. Genèse, chapitre 1, chapitre 2, toute l'action créatrice de Dieu est décrite comme un travail d'une semaine. Et à la fin de la semaine, le constat de Dieu est celui-ci, « Cela était très bon. » Dieu se repose, et puis il se réjouit de son travail. Le travail, ça n'est pas un mal nécessaire. Le travail, c'est pas une maladie. Même s'il y a une médecine du travail, comme le disait Coluche. Ça n'est pas une malédiction. Mais c'est une vocation à laquelle Dieu nous appelle. Le travail faisait partie du paradis. Ce n'est pas une conséquence de la chute, le travail. Dieu travaille, et comme il nous a créés à son image, eh bien il s'attend à ce que nous travaillions. Nous poursuivons le travail que Dieu, au fond, a commencé. Souvenez-vous de la création, il a commencé à former la terre et à la remplir, et puis il a créé l'homme et la femme le sixième jour, et puis il les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, rendez-vous en maître, et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Il n'a pas créé une multitude d'êtres humains, il aurait pu le faire. Il en a créé deux pour qu'ils se multiplient. pour cultiver le jardin. Il a créé le jardin et maintenant il nous demande de le cultiver, de le garder. Dieu a commencé à donner des noms aux choses. Au chapitre 1 de la Genèse, verset 5, il est dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Verset 8, Dieu appela l'étendue ciel. Verset 10, Dieu appela la terre, le sec terre, et il appela la main des eaux mer. Mais au chapitre 2, au verset 19, il demande à l'homme de poursuivre ce travail, de nommer les choses. Il doit nommer tous les animaux de la terre. Voyez comment Dieu nous fait partenaires de son travail. C'est merveilleux, je trouve. Dieu nous a amis dans son équipe pour qu'on continue, pour qu'on travaille avec lui de cette manière. Et Dieu continue de travailler en pourvoyant aux besoins de l'humanité, en arrosant la terre, en faisant germer la semence. Mais les soins bienveillants de Dieu nous sont prodigués en grande partie par le travail de chacun. Imaginez ce que serait votre vie si tout ce que vous consommez, sur tout ce que vous avez, c'est vous qui l'avez planté, cultivé, taillé, chassé, ou je ne sais pas quoi, mais on pourrait rien faire. Non, on profite du travail les uns des autres. Il y a un boulanger, et lui, il fait ça toute la journée, et puis moi, je peux simplement aller acheter du pain. Et le boulanger, il a aussi un garagiste. Et puis, il y a un paysan qui a fait pousser ce blé pour le boulanger. Et ce qui crée, le travail crée de cette manière une solidarité entre nous, entre les hommes. Et donc, ça, l'activité nous donne de la dignité. Parce que on travaille de la même manière que Dieu. Parce qu'on travaille avec Dieu. Parce qu'on travaille pour Dieu. Notre travail, quel qu'il soit, est digne. Sans travail, nous éprouvons un fort sentiment de tristesse, de vide intérieur. Plusieurs ici connaissent le chômage, d'autres l'ont connu. C'est une période difficile, une période où on se sent inutile pour notre société. Bon, les trois premières semaines sont bien. Et après, c'est compliqué. Une étude de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, dit que il y a trois fois plus de risques de dépression chez les personnes qui sont au chômage. C'est pas simplement parce qu'il n'y a plus d'argent ou qu'il y a moins d'argent, mais c'est que le travail nous est nécessaire. C'est un besoin fondamental. La plupart des personnes handicapées physiques ou mentales veulent travailler, prendre part à la vie de la société, pourvoir en tout ou partie pour leurs besoins. C'est une question de dignité. C'est pourquoi le moment de la retraite, c'est souvent un moment difficile à gérer. On a des revenus, mais on n'a plus d'activité. Et on a besoin de trouver une autre activité qui nous rende utile pour nos semblables. On n'a pas simplement besoin de l'argent que le travail nous procure. On a aussi besoin du travail en lui-même pour mener une existence humaine. Le travail met en évidence nos différents talents, nos différentes capacités, notre personnalité. La dignité du travail ne dépend pas non plus de la rémunération ou du prestige intellectuel, même si souvent c'est comme ça qu'on le conçoit. Hein, vous vous souvenez de la pièce de théâtre Le Père Noël est une ordure?
Oui.
Il y a Zézette, épouse X, qui se fait aider pour remplir une feuille de sécurité sociale pour son bébé. Et c'est Christian Clavier qui l'aide et lui demande profession du père. Bon, elle dit, je sais pas, mettez ce que vous voulez. Puis il la regarde, dit, je vais mettre éboueur. Elle s'offusque. Mais pourquoi pas ramasser les poubelles pendant que vous y êtes? Non, mettez bureaulier, celui qui travaille dans les bureaux. Et dans sa pensée, voilà, bureaulier, c'est beaucoup mieux qu'éboueur. Mais la réalité, c'est que tout travail trouve sa dignité en lui-même, Parce que c'est la vocation que Dieu nous a accordée de travailler. Lorsque Dieu est venu sur la terre, il n'est pas venu comme un roi, comme un philosophe, comme un chef d'État. Il est venu comme un charpentier. Le travail sous toutes ses formes, manuel ou intellectuel, est la preuve de notre dignité humaine parce qu'il reflète l'image de notre Créateur. Un Dieu qui a de la boue sous les ongles, hein, vous vous souvenez de ce passage en Genèse 2, il a fait l'homme de la poussière de la terre. Dieu a de la boue sous les ongles. Comme lui, nous mettons de l'ordre dans ce monde. Nous bâtissons à partir des matériaux dont nous disposons, que ce soit les ressources terrestres, naturelles, ou les ressources humaines. Et nous prenons soin de tout ce qu'il a créé. Par notre travail, nous luttons contre le chaos. Et c'est particulièrement vrai pour les éboueurs. Mais c'est aussi vrai pour les enseignants, qui luttent contre le chaos de l'ignorance. C'est particulièrement vrai pour les policiers. Et donc, ça a quelques implications de se souvenir que le travail est bon et qu'il est digne. La première implication qu'on pourrait lever, c'est on a la liberté de chercher un métier qui corresponde à nos dons et à nos passions. On a parfois appris que ce qui importe, c'est le salaire ou la reconnaissance sociale. Pas vrai. Quand vous faites vos études, cherchez non pas ce qui rapporte, cherchez ce que vous aimez faire. La chose que vous allez faire avec votre cœur pour servir Dieu et pour servir vos semblables. Notre implication, c'est que on peut accepter un travail en dessous de notre qualification ou de la rémunération escomptée. Quand le contexte économique est difficile, que l'offre est plus rare, puisque ce n'est pas le montant de mon salaire qui confère la dignité à mon travail. Notre implication, c'est que nous n'avons pas d'excuses pour justifier une attitude condescendante envers des personnes exerçant un métier moins prestigieux que le nôtre, un métier manuel. Et nous n'avons pas non plus d'excuses pour justifier des sentiments de jalousie envers des personnes qui ont un meilleur salaire ou une activité plus prestigieuse que la nôtre. Prestigieuse au regard des hommes. L'activité d'une mère au foyer, même si elle n'est pas rémunérée, elle est particulièrement digne. Il y a aussi une limite à notre travail. Beaucoup pensent à tort que le travail est une malédiction et que c'est forcément ailleurs qu'on trouve un sens à l'existence humaine. Et parfois, c'est très fort chez les chrétiens. On dit, ben voilà, moi je travaille, c'est alimentaire, puis après je fonce à l'église, quoi. Je veux investir ma vie. C'est pas tout à fait juste de penser comme ça. Mais attention aussi à l'erreur inverse, de penser que le travail est la seule activité importante que l'homme puisse faire. Et que le repos, c'est un mal nécessaire pour recharger les batteries, pour pouvoir continuer à travailler. Dieu s'est reposé, lui aussi, le septième jour. Et pourtant, il n'était pas fatigué. Le repos, il nous invite à contempler Dieu et à nous réjouir du monde. Il y a un commandement de travailler six jours, mais il y a aussi, du coup, un commandement à se reposer le septième jour. Le travail peut aisément devenir une idole dans notre cœur, qui rivalise avec Dieu. Alors le repos, il nous oblige justement à tourner nos regards vers Dieu et à le louer, à le mettre au centre de notre vie. Alors après avoir vanté le travail, il faut aussi parler de ce que le travail est déchu. À cause du péché, le travail est devenu pénible. Ça c'est Genèse chapitre 3. Je vous lis juste les versets 16 et 17. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Le travail n'est pas en soi une malédiction, mais le travail est sous la malédiction. Le travail de l'homme et de la femme a été impacté par la chute. Au travail de la femme enceinte et au travail de l'homme s'attache désormais une douleur. Le travail parfois avorte et parfois le travail nous tue. Le travail a un côté frustrant. Au verset 17, il dit « Le sol sera molli à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Pensez aux agriculteurs dont, qui ont planté, qui ont labouré, qui ont travaillé, etc. Et puis, là, il y a eu une canicule terrible. La terre s'est desséchée. Le maïs n'est pas monté. Il n'y a pas eu de grain. Il y a pas... Tout ça, c'est perdu. Pensez aux incendies, aux feux de forêt, les champs aussi qui ont été brûlés. Pensez aux orages de grêle qui ont parfois détruit une année de travail. Le travail est frustrant. Pensez aux étudiants là qui ont préparé leur thèse et puis il y a un virus informatique qui s'y met et tout le travail est perdu. C'est extrêmement frustrant. Vous connaîtrez des frustrations dans le travail. Aussi, on perd parfois le sens dans notre travail. On ne sait plus. On a tellement mécanisé ou morcelé le travail que on ne sait plus vraiment pourquoi on travaille. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Autrefois, un menuisier, il allait dans une scierie, il achetait des planches, il choisissait lui-même ses planches, il ramenait ça dans son atelier, et puis il construisait un meuble de A à Z. Aujourd'hui, il y a certains qui portent le nom de menuisier, qui en font juste emballent des planches d'aggloméré qui sortent d'une scieuse à commande numérique, là, et ils savent même pas ce qu'ils font. Ce que c'est... Sur leur fiche de paye, c'est noté « menuisier ». Mais le sens est un peu perdu. Parfois, on a besoin de prendre un peu de grandeur, et puis d'aller à Ikea, et « Ah, c'est ça que j'ai fait !» C'est pour faire plaisir aux gens, c'est pour offrir des meubles pas chers. Ah ouais, d'accord, mon travail est aussi utile. Mais parfois, il faut retrouver le sens. Ça génère une certaine frustration. Le travail est fatigant aussi. C'est à la sueur de ton front que tu manges du pain. La révolte des gilets jaunes est née de personnes qui travaillaient 40 heures par semaine et qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Je ne fais pas de politique là. Mais c'est quand même une réalité. Les gens triment et ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Les agriculteurs. Il y a un taux de suicide terrifiant chez les agriculteurs parce qu'ils travaillent 60 heures. Enfin, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Un jour, vous allez ce que vous avez fait. Si vous travaillez dans le bâtiment, que vous avez construit une belle maison, cette maison sera rasée. On construira un immeuble. Plus personne ne se souviendra. La vie remplacera votre travail. On ne se souviendra pas qu'autrefois il y avait des cassettes VHS Je pensais à ça en jetant des cassettes VHS, je me suis dit, il y a des gens qui ont travaillé, il y avait des ingénieurs qui se sont cassés la tête là-dessus, ils ont passé toute leur vie, il y a des gens qui ont travaillé, etc. Ils étaient à la pointe, ils étaient à fond. Même pas ce que c'est. Si vous avez un certain âge, on commence à vous faire savoir que bon, vous êtes has-been maintenant, on va vous recycler. On vit dans un monde déchu. Vivre régulièrement des contrariétés dans votre travail, même si vous êtes exactement au poste qui vous convient. J'aimerais vous dire que le pasteur, c'est génial, mais il y a aussi des contrariétés. Il y a aussi des difficultés. C'est parfois aussi frustrant, fatigant, futile. Mais par-dessus tout, le cœur des travailleurs a été tordu. Et ça peut générer le plus grande souffrance, je crois. En se détournant de Dieu, les hommes se sont fait des idoles. Et nos idoles gouvernent nos vies. La gloire personnelle, ou le pouvoir, la reconnaissance et la réussite, la richesse, le bien-être, parfois même une idole, une idylle amoureuse ou un plaisir sexuel. Toutes ces idoles déterminent notre comportement au travail et notre conception du travail. À cause des faux dieux que peuvent être le bien-être et le plaisir, on peut être dans l'incapacité de fournir un travail fidèle et fructueux. Dans les Proverbes, chapitre 24, verset 33, il dit, vous connaissez ça? Pardon. Un peu de sommeil. Ça, c'est le verset 33. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Parfois, on a on aime bien, je veux dire, juste... Voilà, on aime bien juste se reposer. On aime bien juste le moins d'efforts. Les proverbes regorgent d'avertissements contre la paresse. Parfois, c'est souvent très ironique, très, très humoristique la manière dont Dieu nous parle de notre paresse. Et parfois, on a besoin de réaliser, mais ma paresse... C'est parce que j'ai l'idole de mon bien-être, mais je pense plus à peut-être à ma famille, je pense plus aux autres, je pense plus à Dieu qui a donné de la dignité à mon travail. D'un autre côté, les idoles du pouvoir et de l'approbation des autres peuvent nous conduire au surmenage, ou elles peuvent nous amener à avoir une attitude méchante, dure, injuste. Certains d'entre vous ont connu des grandes difficultés professionnelles à cause de chefs qui ont juste une idole et qui sont prêts à vous sacrifier, à sacrifier toute leur propre famille même et leur honnêteté, leur intégrité pour pouvoir accomplir leur plan. Notre travail devient souvent notre idole. En Genèse 11, le grand projet des hommes, c'est de construire une tour à Babel et de se faire quoi ? Se faire un nom. L'idée d'avoir un nom. Se construire une identité par soi-même pour dire « je suis quelqu'un ». Maintenant, il y a une impasse qui porte mon nom. J'ai laissé ma marque dans telle société, dans telle administration. Vous vous souvenez de ce film L'adversaire avec Daniel Auteuil raconte l'histoire vraie de Jean-Claude Reynaud. Jean-Claude Roman.
Ah oui.
Étudiant en médecine. Il a échoué au concours de l'internat en 1975. Mais il n'a pas été capable de reconnaître son échec. Et du coup, il a fait croire à sa femme, à sa famille, à ses enfants qu'il était médecin. Ça a duré 18 ans. Pendant 18 ans, il partait chaque matin avec sa mallette, son costard, il allait sur un parking. Il a fait croire ça. 18 ans après, sa femme était sur le point de découvrir le truc. Il n'y avait plus d'argent qu'il avait hérité. Du coup, il a tué sa femme, ses enfants et ses parents. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et il a été libéré sous condition le 27 juin dernier.
Oh.
Voyez-vous, ce qui a perdu cet homme, c'est son idole. Plus que de soulager la souffrance des malades, ce que lui voulait, c'est exister à la face, devant la face des autres et de pouvoir dire, devant mon nom, il y a un D majuscule, il y a un petit R et un point. Ça veut dire que je suis quelqu'un. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie qui a conduit cet homme au désastre. Ne plus être aux yeux des autres, ce qu'il n'a jamais été même, réellement, lui était insupportable. Enfin, et c'est merveilleux, le travail est racheté par l'Évangile. On peut chercher une forme de salut. Et quand je parle du salut, je parle de l'amélioration de l'image de nous-mêmes. Et on peut chercher ce désir de salut, ce besoin d'améliorer l'image de nous-mêmes dans notre vie professionnelle. En tant que pasteur, j'aimerais bien être un bon pasteur. D'avoir une bonne image devant mes frères et sœurs. De voir une bonne image devant mes collègues. Mais ça devient parfois l'objet de notre désir, la poursuite de notre vie. Si mon salaire, ou la reconnaissance sociale, ou le service apporté à mes concitoyens, est le but de ma vie, pour que je sois quelqu'un de bien, pour que les autres puissent dire « Mais ça, c'est vraiment, c'est un bon pasteur. » Si j'ai cette conception du travail, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une pression constante sur ma vie. La pression d'être un bon pasteur. Un bon prof, une bonne infirmière. Mais l'Évangile nous libère de cela, de cette pression, puisque Christ, en Christ, nous sommes reconnus, nous sommes acceptés, nous sommes en sécurité. Nous n'avons plus besoin de faire la démonstration de quoi que ce soit. Christ m'a accepté, il m'aime. Il a jugé bon de m'avoir avec lui pour l'éternité dans son ciel de gloire et de partager sa gloire avec moi. Voyez-vous comment l'Évangile nous libère? Cette pression fait que la vie professionnelle ressemble souvent à Dallas et son univers impitoyable. Hein, parce que il faut écraser l'autre pour pouvoir dominer, pour pouvoir vivre, exister, pour pouvoir être meilleur que l'autre. Alors mes collègues, c'est plus des collègues, c'est des concurrents. Mais l'Évangile nous enseigne comment Dieu nous a servi. Dans ce livre, Tim Keller rapporte cette histoire d'une jeune femme qui a commencé à venir dans leur église à New York. Et elle partait sitôt après la réunion terminée. Un dimanche, il a réussi à l'intercepter à la sortie. En passant, si vous vous reconnaissez dans cette attitude, aidez-nous en restant un petit peu pour vous attraper. Et finalement, donc, il a réussi à l'attraper et elle lui raconte qu'elle veut découvrir le christianisme. Elle dit, mais comment est-ce que vous avez connu notre église? Elle dit, ah, alors là, il faut que je vous raconte. Et elle commence à dire qu'elle travaillait dans une entreprise de Manhattan et qu'elle a commis une faute grave dans dans son travail. Et cette faute grave aurait dû lui coûter son poste. Mais son chef est allé lui-même devant ses supérieurs et a endossé toute la responsabilité de ce qu'elle avait fait. C'est donc sa réputation à lui qui a été ternie, et il a aussi perdu un peu de marge de manœuvre dans la société. Alors, cette femme, elle a été bouleversée. Et donc, elle est allée le voir pour le remercier. Elle lui a dit, vous savez, j'ai souvent vu mes chefs s'attribuer les mérites de mon travail. Mais j'ai jamais vu un de mes supérieurs assumer une de mes erreurs. Et du coup, elle a commencé à insister pour savoir, mais qu'est-ce qui vous rend si différent? Et lui a dit, eh bien, je suis chrétien. Et ça veut notamment dire que Dieu m'accepte parce que Jésus-Christ a pris sur lui la responsabilité des mauvaises choses que j'ai faites. Il est mort pour ça. Et c'est pourquoi j'ai le désir et parfois la possibilité d'assumer les erreurs des autres. Elle a dit, mais dans quelle église vous allez? Il l'a invitée, et puis elle a trouvé la paix avec Dieu par la suite. Le cœur de cet homme avait été façonné par l'Évangile. Il a rendu un témoignage qui attirait. Il a porté du fruit. La vie de cette jeune femme a été finalement transformée par le même Seigneur. Désormais, le but de toute activité professionnelle est, et si vous pouvez bien retenir ça, d'honorer Dieu en aimant notre prochain et en le servant par notre travail. Le but de notre activité professionnelle, quelle qu'elle soit, est d'honorer Dieu en aimant notre prochain et en le servant par notre travail. Oh, bien entendu, la question de la rémunération a son importance, hein. On a des charges, on doit prendre soin d'une famille, on est appelé à être généreux, mais ça n'est pas le but en soi. L'Évangile nous enseigne à servir notre prochain par notre travail. Un travail rémunéré la plupart du temps. Et c'est quoi servir Dieu à son travail? Ça n'est pas d'organiser une étude biblique pour vos collègues chaque matin avant de commencer. Peut-être vous aurez l'occasion de le faire. Mais ça n'est pas premièrement cela. C'est quoi servir Dieu à son travail? C'est d'être compétent. C'est d'être compétent dans votre travail. Si vous êtes instituteur au CEP, ce que Dieu vous demande, c'est que vos élèves sachent lire et compter avant la fin de l'année. Qui soit. Vous servez Dieu, vous servez les enfants, vous servez leurs parents, vous servez aussi votre société qui a besoin, notre société qui a besoin de personnes qui savent lire et compter. Et peut-être qu'un jour, ils liront les Saintes Écritures et qu'ils compteront les bontés de Dieu. Si vous êtes peintre, électricien, informaticien, infirmier, architecte, étudiant, lycéen ou pasteur, vous servez Dieu en faisant votre travail du mieux que vous pouvez. Et c'est précisément ce que Dieu vous appelle à faire. Si vous êtes retraité, Dieu vous appelle encore à être actif et à prendre soin de ce monde dans les grandes détresses, dans les grandes difficultés qu'il connaît. D'honorer Dieu par votre travail, en aimant votre prochain et en le servant. Le travail est ce que Dieu a prévu pour nous, parce que lui-même travaille. Le péché, alors, a bien sûr affecté notre travail. Il le rend frustrant, fatigant, futile. Nos cœurs de pécheurs ont tendance soit à mépriser le travail en étant paresseux, soit à l'idolâtrer. Ce sont deux mots dont nous devons être préservés. Mais peut-être avons-nous besoin de nous repentir de l'un ou de l'autre. Et puis, simplement, de recommencer une nouvelle année avec cette passion de servir Dieu dans un monde déchu, avec toutes les souffrances, les difficultés que ça aura, les frustrations que ça comportera, mais avec ce but prestigieux d'honorer Dieu en aimant notre prochain et en le servant par notre travail. Que Dieu nous vienne en aide pour vivre cela cette année dans notre activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Que Dieu vous bénisse. Prions.